femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine et Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Bienvenue à l'émission Chez Betty. Il est 13h01 sur Radio Plus. 2 heures d'audace, de liberté, d'amour, d'humour, d'impertinence. On fait péter le soutif aujourd'hui et à m'écouter, nous invite, notre invité, pardon, Cléophée. Bonjour Cléophée.
Bonjour à toi Betty, merci. Bonjour à tous.
Donc tu vas nous parler des tendances d'automne et d'Halloween aussi?
Oui, exactement, les tendances automne-hiver 2020-2021 et également un petit passage sur le maquillage d'Halloween.
Super. Donc on va commencer et du coup Coco nous rejoindra après et on va dire bonjour aussi à Angèle.
Bonjour.
Ça va aujourd'hui?
Ça va.
Donc on est parti, on va commencer avec la rubrique Actualité féminine. Alors, actualité féminine, je commencerai aujourd'hui avec donc la mort de Victorine. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu en avais entendu parler, Cléophée.
Non, pas trop.
C'est, donc, cette jeune fille qui avait été retrouvée morte dans un ruisseau à Villefontaine, le 28 septembre dernier. Donc, selon BFM TV, un père de famille de 25 ans, placé en garde à vue, a reconnu avoir participé au meurtre. Donc, voilà. On va peut-être découvrir, peut-être, qui aura tué.
Pas très joyeux,
cette nouvelle. Non, pas du tout. Ouais, généralement, c'est rarement joyeux, hein, les nouvelles, surtout en ce moment. Donc, la Fondation des 30 millions d'amis continue sa lutte contre l'abandon des animaux avec une nouvelle campagne poignante. Je sais pas si tu as vu passer.
Oui, j'ai vu un petit peu.
Ouais, donc un récapitulatif, donc c'est un tribunal, un juge et un chien condamné à mort. C'est la vidéo choc de la Fondation 30 millions d'amis qui apparaît sur YouTube. Et la Fondation s'engage à sensibiliser le plus grand nombre sur l'abandon de nos animaux de compagnie. Cette vidéo poignante a été réalisée par la cinéaste Mia Wayne et lève le voile sur le terrible sort qui est réservé aux chiens, aux chats, qu'on abandonne chaque année. Un tribunal s'ouvre et le juge s'adresse aux chiens, énumérant tout l'affection que ce dernier porte à ses maîtres durant des années. Il vous a été reproché d'avoir été fidèle à votre famille pendant 7 ans, d'avoir tenu compagnie à vos maîtres dans les bons comme dans les mauvais moments, d'avoir donné toute votre affection sans rien attendre en retour, dit le juge avant de conclure en s'exclamant « La cour vous condamne à la peine de mort ». Voilà. La vidéo choc.
Moi, c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur. La Fondation 30 millions d'amis, et vraiment c'est une cause non à l'abandon.
Ouais, c'est clair.
Ça me fait vraiment de la peine de voir autant d'abandon encore en 2020.
Ça continuera malheureusement. Enfin, essayons que non, surtout que là, on va être proche de Noël.
C'est ça. Mm. Surtout ne pas prendre un chien pour cadeau de Noël. Quoi.
C'est ça. Après, surtout pour se dire que c'est pour les enfants.
C'est ça. Ouais, et après, pas savoir s'en occuper.
Ouais, c'est clair. Donc avec le confinement et la crise sanitaire, des adoptions ont ralenti dans les refuges surchargés. Ils ne peuvent pas toujours accueillir les animaux abandonnés retrouvés par la fourrière. Les animaux amenés en fourrière et non réclamés par leur maître à l'issue du délai légal de garde de 8 jours risquent la mort. Encore. Donc il faut bien penser avant d'adopter un chien surtout.
C'est ça. Et privilégier ces associations, aller voir à la SDA, à la SPA.
Ouais, c'est ça.
Avant d'acheter un animal en animalerie, il y a des animaux, des chiens, des chats qui attendent au refuge d'être adoptés,
ouais,
justement.
Ouais, ouais, ouais. Les chiens préfèrent les petits chiots, quoi.
C'est ça.
Mmh. Mais bon, il y a des chiens qui donnent plein d'amour, même en ayant 13-14 ans. Donc la rentrée 2020 aurait été rythmée par les débats sur les tenues des femmes, crop top, voile, short, décolleté. De quoi cette séquence hallucinante est-elle le signe ? Réponse sans détour de la politiste et sociologue Virginie Martin. Depuis le début du mois de septembre, les polémiques sur les vêtements des femmes n'en finissent pas. Jeanne trop décolletée pour entrer au musée d'Orsay, Mariam stigmatisée lors d'une commission parlementaire, ado interdite d'entrée, le 14 septembre dans leur établissement scolaire pour cause de croque-top ou short trop court. Mardi 30 septembre, c'est un sondage IFOP sur les tenues des collégiennes et lycéennes qui a relancé la machine. On se repasse le film aux côtés de Virginie Martin, politicienne et sociologue, à la Kenge Business School et présidente du conseil scientifique de la revue politique et parlementaire. Donc, elle répond « Question, depuis un mois, des polémiques liées à l'habillement des femmes ne cessent d'éclater. Pourquoi ?» Cette séquence s'inscrit dans une sorte de backlash concernant le droit des femmes et plus généralement la représentation du féminisme. Dans les années 90, l'autrice de féministe Suzanne Faludi avait d'ailleurs intitulé son essai « Backlash », autrement dit « contre-coup ». C'est ce que nous voyons poindre aujourd'hui. Les conservateurs populistes ont des discours très anti-féministes dans les médias. Cette partie de l'opinion représentée par exemple par des Éric Zemmour, Michel Onfray ou même des Elisabeth Badinter ont une force médiatique très importante. Les discours antiféministes sont parfois subtils. Ils sont bien sûr d'accord avec l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, mais tout est dans le « mais ». Ils estiment qu'il ne faut pas être en guerre contre les hommes, être trop radical, se revendiquer comme féministe, être activiste, suivre des exemples comme l'élue féministe lesbienne Alice Coffin. Donc on peut être libre, mais il faut pas trop en faire. Autrement dit, les femmes peuvent travailler, conduire une voiture, avoir un salaire, même prendre la pilule, mais il ne faut pas qu'elles revendiquent haut et fort, ni que leur corps leur appartienne pleinement. La société patriarcale estime avoir encore quelque chose à dire aux femmes, sur les femmes. Nous revenons sur ce point de vue-là, ce fameux backlash dont parlait Suzanne Faludi. Donc le voile ou le nombril relève de la même chose. Les femmes, le corps des femmes appartient à la société patriarcale. Donc quel lien peut-on établir entre le cas des filles et des femmes à qui l'on reproche le port du voile et le cas de celles à qui on reproche leur décolleté, nombril ou cuisse à l'air ? Ce lien est toujours le même, le corps des femmes est un objet politique, les politiques en jouent. Prenons par exemple la gravité des propos d'Éric Dupond-Morandini à propos de MeToo. Aujourd'hui, il est promu ministre de la Justice. De Gérald Darmanin, accusé d'avoir échangé des faveurs politiques contre du sexe, est actuellement le ministre de l'Intérieur. Le corps des femmes n'est juste rien, sauf à être à disposition. Le consentement est secondaire. Voilà. Il y a un candidat du FM qui avait dit que le viol, c'est juste un qui ne veut pas, mais qui devrait faire des efforts.
Moi, ça me choque d'entendre des propos pareils.
Ouais.
Et pour en revenir au port du voile ou du crop top, etc., c'est chaque femme est libre de porter ce qu'elle veut.
Ah, c'est clair. C'est clair. Dans cette logique, le voile ou le nombril relève de la même chose. Le corps des femmes appartient à la société et à sa structure patriarcale. Dans le même mois que toutes ces polémiques, un homme a été condamné pour avoir frappé une inconnue dans la rue, dont il jugeait la tenue trop courte. Peut-on établir un lien entre le débat public d'un côté et les violences physiques de ce type de l'autre ? Là encore, c'est la même logique. Le corps des femmes étant un bien public, l'homme, les hommes, mais aussi les femmes qui ont intégré la culture patriarcale en disposent. Pour le violer, le séduire ou pour le contrôler et le frapper. Tenue correcte, bon sens, tenue républicaine, les termes employés par les politiques sont en fait assez vagues. De quoi est-il révélateur ? D'abord, il faut quand même rappeler que les filles, les lycéennes, les étudiantes ne confondent jamais une cour d'école, des réunions entre étudiants, étudiantes et par exemple un oral du bac ou un entretien pour rentrer dans une école. Donc l'argument de la tenue correcte ne tient pas. Les filles ne vont pas aux entretiens et aux oraux comme elles vont en cours tout au long de l'année, comme les garçons d'ailleurs. Ensuite, la société patriarcale est confirmée via ses déclarations, conforté, renforcé, et les discours masculinistes ont de beaux jours encore devant eux. Donc le gouvernement aurait pu stopper la chaîne de la culture du viol. La culture féministe du gouvernement est d'une grande pauvreté, et le fait que ces termes sont employés au plus haut niveau de l'État est préoccupant. D'une part, il confirme que ce quinquennat ne sera décidément jamais féministe, mais surtout, c'est une confirmation par la voix des institutions que le corps des femmes est un objet public. Or, le politique avait justement une carte à jouer sans précédent. Il aurait pu saisir l'occasion de stopper la chaîne de la culture du viol en déclarant que les filles avaient le droit de disposer pleinement de leur corps, comme c'est le cas des garçons. Il aurait considérablement aidé les filles et les femmes. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc les gens qui défendent actuellement ce contrôle du corps des femmes assurent que les règles s'appliquent à tout le monde, que leur démarche est universaliste, contre les signes religieux tels qu'ils soient, pour tout le monde, filles et garçons. Donc le discours antiféministe est toujours un cheval de Troie. D'abord, il permet aux politiques d'emporter une large adhésion au moindre coût. Ensuite, derrière chaque antiféministe, on remarque toute une panoplie d'idées. Le discours s'accompagne immédiatement de propos anti-musulmans, homophobes, anti-écolos et plus généralement de discours très universalisants. L'éventail de personnes défendant cette ligne est large. Il y va d'une certaine gauche, incarnée par exemple par l'ex-ministre Manuel Valls, et de l'extrême droite, par qui ses discours sont d'un classique, en passant par la droite traditionnaliste, sans oublier le gouvernement actuel. Bref, on voit combien l'antiféminisme est un concept qui traverse en profondeur notre société, une sorte de boîte de Pandore dont le contenu se déverse systématiquement, sans leur consentement, sur le dos des femmes. Donc il y a encore du boulot.
Oui, c'est ça.
Exactement.
Il y a encore de l'évolution à faire.
Beaucoup. Ouais. Il faut qu'on continue. Angèle, une chanson pour changer. Pas prêt. Si ?
Si, si. Donc cette fois, je vais vous passer alors Real Games de Lucky Day, sorti en 2019.
Eh bien, on écoute ça et on revient tout de suite après.
Just need to kiss it goodbye. So baby, bring it over tonight. Don't wake up in your head. These words will keep them in this bed. I'm feeling like the first time we met, but I know this is good as it gets. We know we have no more. So baby, we can take it slow.
Like a fool for the hoop ride, baby. Drop top in the coupe, banging Tupac, baby. I saw something real, fuck what you saw, baby. I saw something real, fuck what you saw, baby. Trying to find a feel, but it's too hard, baby. Yeah. It's hard to get out, thinking we all take it, oh. Me like every time, jump with my Cadillac and ride
just like a fool for the hoop ride, baby. Drop top in the coupe, banging 2-5, baby. I saw something real, fuck what you saw, baby. I saw something real, fuck what you saw, baby. Trying to find a pill, but it's too hard, baby. Guess I take it out, Ricky, we all take it all.
Voici après cette petite séquence musicale et nous avons Coco qui vient d'arriver sur, enfin à la radio, sur
oui.
la radio aussi, mais bon,
bonjour
ça fera moins. Du coup, on va parler aujourd'hui
de
la Toussaint dans un premier temps et d'Halloween ensuite.
Ah,
un vaste sujet.
Oui.
Un petit peu de gaieté dans ce monde un peu norme aujourd'hui. Enfin non, puisque la Toussaint c'est pas le truc. Alors du coup, est-ce que vous voulez tout savoir sur la Toussaint?
On t'écoute.
Bah oui, bien.
Alors, la Toussaint, donc du coup, c'est une fête qui est plus française, enfin oui, occidentale, on va dire. Fais pas de bruit, Coco.
Désolée.
Et donc, du coup, Halloween n'étant pas la fête primaire pour les Français, nous, c'est plus la Toussaint. Du coup, la Toussaint est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Du coup, on est au courant que c'est
D'accord.
catholique. Donc, au IVe siècle, l'Église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. À l'origine, les premiers saints après les apôtres étaient des martyrs, morts pour leur foi. Enfin, voilà, ils mouraient pour quelqu'un qui ne savait pas s'il existait ou pas,
ouais.
en gros. Cette fête est célébrée le premier dimanche après la Pentecôte dans l'Église orthodoxe. Au XVIIe siècle, l'Église catholique fait du Panthéon de Rome une église dédiée à Sainte Marie des Martyrs. Ainsi, au culte des divinités romaines se substitue le culte des saints catholiques. C'est à cette occasion que la fête de la Toussaint est instituée. À l'origine, elle est célébrée en mai. On l'a ensuite déplacée au 1er novembre pour des raisons pratiques selon Jacques de Varogine.
D'accord.
Mais sinon, c'est au mois de mai. Voilà, on en apprend des choses. Hein. Donc, le 1er novembre, c'est aussi le jour de l'an celte et s'oppose au 1er mai. La Toussaint, c'est la fête des saints et non la fête des morts.
Oui.
Celle-ci, a lieu le 2 novembre, la fête des morts. Cependant, parce que la Toussaint est un jour férié, il est plus facile de se rendre au cimetière, du coup, ce jour-là.
Voilà.
Alors, la Toussaint, 1er novembre, la fête de la Toussaint est instituée pour quatre objets. En premier lieu, pour commémorer la consécration d'un temple. En second lieu, pour suppléer des omissions. En troisième lieu, pour expier nos négligences. Et en quatrième lieu, pour nous faciliter l'accomplissement de nos vœux. Donc, il faut aller, aller raconter ses péchés. Alors, voici d'abord l'histoire de la consécration du temple. Les Romains, devenus maîtres du monde, avaient construit un temple énorme au milieu duquel ils avaient placé leur idole. Et tout aux alentours était leur, étaient les idoles de toutes les provinces conquises, la face tournée vers l'idole des Romains.
D'accord.
Voilà. Donc les idoles des ceux qui ont été conquis regardaient l'idole des Romains pour dire qu'ils sont les plus forts. Non, vous n'avez pas compris ça ? Si ?
Si, c'est bon.
Si, si. Alors, mais bientôt, ce temple ne suffit pas aux Romains qui construisirent pour chaque dieu un temple particulier. Et comme tous les dieux ne pouvaient pas avoir un temple à eux dans la ville, les Romains, pour mieux étaler leur folie, construisirent en l'honneur de tous les dieux un temple plus admirable encore que les autres et l'appelèrent le Panthéon, ce qui signifie le temple de tous les dieux. Pour tromper le peuple, les prêtres des idoles leur racontèrent que la déesse Cybèle, qu'ils appelaient la mère de tous les dieux, leur était apparue. Et cette déesse leur aurait dit que si Rome voulait remporter la victoire sur toutes les nations, on eut à élever à tous les dieux ses fils un temple magnifique. Ce temple fut construit sur une base circulaire afin de symboliser l'éternité des dieux. Donc déjà, c'est parti d'un mensonge. Ah bah, allez, non. Or, sous le règne de l'empereur Phocas, lorsque depuis longtemps déjà Rome était devenue chrétienne, le pape Boniface, quatrième successeur de Saint Grégoire, obtient de l'empereur le sudit temple, le débarrassa de toutes ses idoles et le 3 mai de l'an 605, le consacra à la Vierge Marie et à tous ses martyrs, d'où il reçut le nom Sainte Marie aux martyrs.
Ouais.
Plus tard encore, un pape nommé Grégoire transporta au 1er novembre la date de la fête d'anniversaire de cette consécration, car cette fête, les fidèles venaient en foule pour rendre hommage aux saints martyrs. Et le pape jugea meilleur que la fête fût célébrée à un moment de l'année où les vendanges et les moissons étaient faites. Les pèlerins pouvaient plus facilement trouver à se nourrir. En même temps, ce pape décréta que l'on célébrerait ce jour-là dans l'église tout entière, non seulement l'anniversaire de cette consécration, mais la mémoire de tous les saints. Et ainsi, ce temple avait été construit pour toutes les idoles, se trouvait aujourd'hui consacré à tous les saints.
D'accord. Ah ben voilà, t'as éclairé ma lanterne.
Voilà.
Super.
C'est les Romains et après c'est nous.
Oui.
Donc la fête de la Toussaint a été instituée pour suppléer à des omissions, car il y a beaucoup de saints que nous oublions et qui non seulement n'ont pas de fête propre, mais qui ne se trouvent même pas commémorés dans nos prières. C'est en effet chose impossible que nous célébrions séparément la fête de tous les saints, tant à cause de leur innombrable quantité que de notre faiblesse et notre manque de temps. Ah si, c'est pour y passer toute une année. Alors, la fête de la Toussaint a été instituée pour expier les négligences, car bien que nous célébrions la fête que de peu de saints, encore négligeons-nous souvent celle-là, même par ignorance et par paresse. Et c'est de ce péché que nous pouvons nous délivrer en célébrant d'une façon générale tous les saints et de le jour de la Toussaint. Nous sommes de sacrés pécheresses, moi je vous le dis. Alors, en effet, la fête de la Toussaint a été instituée pour nous faciliter l'obtention de nos vœux, de même que nous honorons à ce jour tous les saints, de même nous leur demandons d'intercéder tous ensemble pour nous, de façon à nous faire avoir le plus facilement la miséricorde de Dieu. Les saints peuvent en effet intercéder pour nous, par leur mérite et par leur affection. Par leur mérite et ce que le surplus de leur bonne œuvre s'emploie à compenser nos fautes, par leur affection en ce qu'ils demandent à Dieu que nos vœux se réalisent, chose qu'ils ne font cependant que quand ils savent que cela ne contrarie pas la volonté de Dieu, donc en fait jamais, et que dans ce jour, tous les saints se joignent pour intercéder en notre faveur. C'est ce que prouve une vision qui a eu lieu l'année qui suivit l'institution de cette fête. Le jour de la Toussaint, cette année-là, le gardien de l'église Saint-Pierre, après avoir pieusement fait le tour de tous les autels à implorer les suffrages de tous les saints, s'assoupit un moment devant l'autel de Saint-Pierre. Il fut alors ravi en extase et vit le roi des rois assis sur son trône avec tous les anges autour de lui. Puis vient la Vierge des Vierges avec un diadème de feu autour de la tête et suivit la foule innombrable des Vierges. Puis l'ange conduisit le gardien dans un autre lieu où il lui montra des personnes des deux sexes dont l'une était vêtue d'or ou assise à des tables somptueuses, tandis que d'autres, nues et misérables, mendient du secours. L'ange dit au gardien, « Ce lieu est le purgatoire. Les âmes que tu vois dans l'abondance sont celles qu'assistent copieusement les suffrages de leurs amis. Les âmes de ces mendiants sont celles de personnes qui n'ont point d'amis au ciel ni sur terre pour qu'elles s'occupent d'elles. » L'ange ordonna au gardien de rapporter tout cela au souverain pontife afin que, après la fête de la Toussaint, il institua la fête des âmes, c'est-à-dire une fête où, du moins, des suffrages communs s'élevèrent au ciel en faveur de ceux qui n'avaient personne pour adresser leur faveur aux suffrages particuliers.
D'accord.
Voilà.
D'accord. C'est tous les hôtels qu'il avait fait, c'est ça?
Ouais, il a fait tous les hôtels.
Il n'y avait pas des bars dans les hôtels?
Bah, peut-être. Ah, va savoir, c'est une histoire. On ne peut pas savoir, hein,
bah
c'est dur. Raconter. Alors, le jour des âmes, donc ça c'est le 2 novembre. L'Église a institué en ce jour la commémoration des fidèles défunts afin d'accorder un bénéfice général de prière à ceux, parmi ces défunts, qui n'en possèdent point de particulier. Cette fête a été instituée à la suite de la vision racontée au chapitre précédent. Pierre Damien raconte aussi que Saint Odilon, abbé de Cluny, apprenant que l'on entendait souvent sortir de l'Etna les hurlements des démons et les voix plaintives des âmes défuntes qui demandaient à être arrachées de leurs mains par des aumônes et des prières, décida que, dans les monastères de son ordre, la fête de la Toussaint serait suivie de la commémoration des âmes défuntes et cette décision fut ensuite approuvée par l'Église entière.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, le 1er novembre, c'est la fête des martyrs et le 2 novembre, c'est la fête des âmes.
Ok.
Juste sauver les mauvaises âmes perdues, tu sais, quelque part. Voilà. Bon, nous, on est foutus. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Angèle, une petite chanson avant d'entamer l'histoire d'Halloween.
Bah justement, je vais mettre une chanson un peu dans le thème. Je vais mettre Somebody's Watching Me de Rockwell, sorti en 1994.
Et ça veut dire quoi? Parce que moi, l'anglais...
C'est-à-dire quelqu'un m'espionne, me regarde.
Oh là, oh bah, c'est d'actualité, là.
I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. We'll be right back.
Alors nous voici de retour pour continuer sur notre petite lancée Toussaint Halloween. Donc là, je vais vous parler de l'histoire de la fête d'Halloween. Vous savez oui, plus ou moins d'où ça vient. Ouais. Enfin, dites pas, hein, mais...
Oui, un petit peu.
Faut laisser le suspense. Alors, quelle est l'origine de la fête d'Halloween?
Oui, alors?
Bah oui, bah ça remonte il y a très très longtemps, puisque c'était 300 ans avant Jésus-Christ. Une société secrète de prêtres tenait sous son emprise le monde celte. Non mais en fait, tu te rends compte que tout était manipulation, qu'on nous a peut-être menti.
C'est ça.
Alors, voilà. Donc chaque année, le 31 octobre, ceux-ci célébraient en l'honneur de la divinité païenne Samhain.
Oui.
Un festival de la mort des prêtres se déplaçant de maison en maison, réclamant des offrandes pour leurs dieux et qui exigeaient parfois des sacrifices humains. C'est gay, hein. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, d'où le trick and treat, malédiction ou présent.
D'accord.
Donc on dit un sort ou un bonbon.
Oui. C'est ça. Donc ça vient de là.
Oh, ouais. Donc pour être plus clair, une offrande, sinon malédiction.
Mm-hmm.
Donc un bonbon ou un sort. Bon, ça marche plus maintenant, mais bon. Des fois ça pourrait servir hein, quand même. Bon, pour éclairer leur chemin, ces prêtres portaient des navets évidés et découpés en forme de visage ou brûlaient une bougie faite avec de la graisse humaine de sacrifices précédents. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leur malédiction efficace. De 1800 à 18e au 19e siècle, quand cette coutume est arrivée aux États-Unis, on a remplacé les navets d'origine par des citrouilles. Le nom donné à l'esprit qui habitait dans la citrouille était Jock, qui devient Jack, qui habite dans la lanterne, d'où le nom Jack aux lanternes.
D'accord.
Ouais.
Le mot Halloween vient à l'origine de all. All, mon anglais il est pas terrible, hein, mais bon. Donc All Hallows Eve, veille de la Toussaint. Et ils ont tenté d'associer cette fête à la tradition chrétienne. En réalité, les origines d'Halloween sont complètement païennes et n'ont aucun rapport avec cette fête religieuse.
D'accord.
Donc en fait, ils ont juste apposé la fête chrétienne. Aujourd'hui, dans le monde entier, Halloween est la fête la plus importante pour les satanistes. Voilà, exactement. Le 31 octobre est le nouvel an du calendrier des sorcières.
Oui.
C'est exactement ça. Mais dans la logique, c'est pour faire peur, hein. Donc, donc le World Book Encyclopédia affirme que c'est le commencement de tout ce qui est cold, dark and dead, donc froid, noir et mort. De nos jours encore, les satanistes pratiquent des sacrifices humains cette nuit-là aux États-Unis et en Australie. Ouais, tu peux dire. Quand nous voyons des enfants faire un trick on tear, on réclame des bonbons de maison en maison. Cela paraît inoffensif et amusant, mais n'êtes-vous pas en train de les associer, sans en être conscient, à un sombre rituel? Voilà. Bah oui, on sait jamais ce qu'ils peuvent devenir après, écoute, hein. Pour les parents de jeunes enfants, un aspect supplémentaire de l'invasion de l'occulte dans la culture doit être abordé au sujet d'Halloween. N'imaginez pas que ce jour particulier n'a rien à voir avec le satanisme. Généralement, il y a des sorcières, hein, de toute façon. Donc, vous serez certainement surpris en apprenant comment le 31 octobre est devenu un prologue pour nous amener à accepter l'occulte. Que vous le croyez ou non, Halloween est devenu le jour du diable, rituellement reconnu par quelques adorateurs de Satan et quelques groupes occultes aux USA. Donc c'est pareil chez nous, hein, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc quels sont les faits à propos d'Halloween? Est-ce le moment d'invoquer la prière de la Cornouaille? Bon Dieu, délivre-nous de goules et des fantômes et des bêtes à longues pattes qui grognent toute la nuit. Oui. Tu vois? Regardons un instant l'histoire d'Halloween. Le prédécesseur chrétien d'Halloween, la Toussaint des catholiques romains, était célébré à l'origine en mai. Oui, et non au 1er novembre, comme j'ai dit tout à l'heure. L'empereur romain Constantin apaisa la population des territoires païens, nouvellement conquis, en leur accordant le droit de conserver leur ancien rite du jour de Samhain, parallèlement à la dernière fête fixée, la Toussaint. Le Panthéon de Rome, un temple construit à l'origine pour adorer une multitude de dieux, fut converti en église. Pendant que les chrétiens célébraient les saints disparus, les païens dédiaient la nuit précédente à sa main leur seigneur de la mort.
D'accord.
Voilà. Donc c'est bien une fête païenne à la base.
C'est ça.
Le sabbat des sorcières. Parce que du coup, Halloween sans sorcières,
c'est pas
Halloween. Hein. Donc le choix du 31 n'est pas une coïncidence. Le 31 octobre est l'un des quatre plus importants sabbats des sorcières. Les quatre jours cross-carter du calendrier celtique. Le premier, le 2 février, populairement connu pour le jour du Groundhog, donc en l'honneur de Bridge, la déesse païenne de la guérison. Le deuxième jour, un jour férié de mai, nommé Beltan, signalait le temps des plantations pour les sorcières. Ce jour-là, les druides exécutaient des rites magiques pour favoriser la croissance des récoltes. Le troisième, un festival des récoltes en août, en l'honneur du dieu soleil, commémorait celui qui brille. Ces trois premiers jours marquaient le passage des saisons, le temps de planter et le temps de récolter, de même que le temps de la mort et de la résurrection de la terre.
D'accord.
Le dernier Samhain marquait l'arrivée de l'hiver. À ce moment-là, les anciens druides exécutaient des rituels dans lesquels un chaudron symbolisait l'abondance de la déesse. On disait que c'était le temps des Twingwicks et Twingwi, une saison sacrée empreinte de superstition et de conjuration spirit.
Okay.
Voilà. Pour les druides, le 31 octobre était à l'origine de la nuit où Samhain revenait avec les esprits des morts. Ces derniers devaient être apaisés. C'est pourquoi il fallait traiter avec eux, sinon les vivants seraient trompés. D'immenses feux étaient allumés sur les sommets des collines pour effrayer les mauvais esprits et apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlaient le processus de la nature. Plus récemment, les immigrants européens, plus particulièrement les Irlandais, sont à l'origine d'Halloween en Amérique. À la fin du 19e siècle, leurs costumes étaient devenus célèbres. C'était l'occasion de renverser des cabinets extérieurs, d'infliger des dommages aux propriétés et de se permettre des fourberies qui n'auraient pas été tolérées à d'autres moments de l'année. Voilà. Donc en fait, tu pouvais faire ce que tu voulais. Aujourd'hui, Halloween est un jour faste pour les marchands, principalement. C'est une nuit où, au cours de laquelle des personnes décentes deviennent exhibitionnistes effrontées. 60% de tous les costumes pour Halloween sont vendus à des adultes.
Oh!
Faut le savoir, 60%. Le 31 octobre, une personne sur quatre dont l'âge échelonne entre 18 et 40 ans portera un déguisement d'Halloween. Pour les personnes ayant des pouvoirs psychique, les voyants, et pour ceux qui se disent visionnaires, c'est la période de l'année la plus occupée de l'année. Les éditeurs de livres sur des sujets classés entre astrologie et sorcellerie indiquent une forte augmentation des ventes. Salem, une ville du Massachusetts, siège de la sorcellerie américaine, célèbre un événement hanté lors d'Halloween pour prolonger sa saison touristique d'été. C'est venu du business, hein?
Oui, c'est ça.
Les symboles sataniques. Parce qu'à Halloween, normalement, c'est pas fait pour récolter des bonbons, hein, c'est fait pour faire peur. Hein. Donc, les pratiques traditionnelles associées avec Halloween sont facilement identifiables à l'occulte. Le Jack aux lanternes est tiré d'une légende dans laquelle un homme célèbre nommé Jack fut chassé à la fois du ciel et de l'enfer. Contraint d'errer sur terre comme un esprit, Jack mit un chaudron ardent dans une rave évidée pour éclairer son chemin la nuit. Ce persécuteur, qui devient une citrouille ensuite, symbolisait une âme damnée. Les couleurs orange et noir peuvent être aussi reliées à l'occulte. Elles étaient en rapport avec les messes commémoratives pour les morts qui avaient lieu en novembre. Les bougies en cire d'abeille, habituellement de couleur écrue, étaient oranges lors de la cérémonie et les cercueils de cérémonie étaient recouverts de drap noir.
Donc c'est là que viennent les couleurs noires et oranges.
Ouais, apparemment, ouais.
Okay.
Alors, Halloween avec l'occulte. Les costumes et déguisements d'Halloween sont issus à l'origine de l'idée des druides celtiques qui prétendent que les participants au cérémonial devaient porter des têtes d'animaux et leur peau afin d'acquérir la force de la bête qu'ils représentaient. C'est dégueulasse en fait. Hein. Donc le trick on tree est tiré d'une légende de la tradition irlandaise selon laquelle un homme conduisait une procession pour prélever des contributions chez les fermiers de peur que leur récolte ne soit endommagée par les démons. Mmh. Un peu comme les prêtres. Donc le dunking of apple venait d'une ancienne pratique pour connaître l'avenir. Le participant qui réussissait à attraper entre ses dents une pomme se trouvant dans un tonneau plein d'eau pouvait espérer une romance couronnée de succès avec l'être aimé de son choix. Ah. On devrait l'essayer, tiens. Donc des chats représentaient des humains incarnés, des esprits malveillants ou des amis intimes, des sorcières. On a toujours dit hein, de jamais. Quand un chat noir traverse, il faut éviter de... Alors, les noisettes étaient utilisées dans la divination romanesque. Une partie de ce qu'on mange lors d'Halloween contenait des objets mis à l'intérieur des aliments comme moyen de dire la bonne aventure. Les masques ont traditionnellement été des moyens animistes pour se protéger d'une manière superstitieuse des esprits mauvais ou pour celui qui le porte puisse changer de personnalité afin de communiquer avec le monde des esprits. En ce moment, on doit vachement communiquer avec le monde des esprits. Moi. Donc la fête d'Halloween a d'autres aspects négatifs à côté de son arrière-plan païen enraciné dans la sorcellerie et son accent mis sur le diable. L'obscurité. Quelques vandales se sont plus intéressés à jouer des farces que d'obtenir des gains. Certains parents craignent qu'un criminel dément distribue des bonbons empoisonnés et des sucreries contenant des épingles ou des lames de rasoir. Il y a aussi le danger que des chauffeurs ne voient pas des enfants costumés se promenant dans la rue mal éclairée. De telles associations ne suggèrent toutefois pas qu'un parent autorisant les célébrations d'Halloween collabore avec le diable. Toutefois, ce sera difficile de trouver une vertu positive à Halloween. Son symbole inclut des démons, des fantômes, des sorcières, la mort, l'obscurité, les squelettes, la peur, l'horreur et la terreur.
Oui, c'est très noir en fait.
Alors... Ouais, voilà. C'est fait pour faire peur. Hein. Alors, les chrétiens font face à la problématique d'Halloween. Bah oui. Hein. Aux USA, certains groupes luttent contre Halloween et l'occultisme. On supprimait avec succès les célébrations de la fête d'Halloween dans les écoles publiques. Donc, il y a même eu un procès fédéral qui a demandé que le satanisme via les pratiques d'Halloween ne soit toléré dans les écoles publiques, vu que la prière était interdite. Une mère qui mena un combat similaire pour retirer la fête d'Halloween des écoles publiques a dit qu'elle n'avait rien contre le fait que ce jour soit considéré comme un festival automnal où les enfants se costument en personnages de l'histoire américaine, mais elle suggère contre le fait qu'on mette l'accent sur le côté obscur de ce jour. Selon ses termes, si le principe de l'esprit de secte a retiré les fêtes de Noël des écoles, pourquoi ne retire-t-on pas aussi Halloween? Si on ne peut pas honorer Dieu, pourquoi honorer le diable? Des opposants de telles tentatives de censure Halloween disent que ce n'est pas une célébration religieuse et que les détracteurs d'Halloween sont des rabat-joie dont l'imagination débridée prive les enfants de plaisir.
Ouais.
Ça va loin quand même. Hein.
Ouais.
Ne tardons pas de réaliser une évaluation plus sérieuse concernant la veille de la Toussaint. Demandez-le au refuge des chats perdus de Chicago. Lors de chaque fête d'Halloween, il rapporte que des recherches au sujet de chats noirs disparus augmentent. Craignant que les félins aient été utilisés lors des rituels sanguinaires par des sorcières improvisées, la Société contre la cruauté envers les animaux a déclaré que les chats noirs indisponibles pour l'adoption durant la saison d'Halloween.
Ouais.
Dans notre monde contemporain où le mal d'origine satanique est plus que réel, plusieurs pensent que c'est le moment d'épurer Halloween de ces éléments peu recommandables. Ils ressentent qu'une interdiction d'observance officielle d'Halloween avertirait les parents et les enfants et qu'ils comprendraient que la symbolique occulte d'Halloween célèbre des puissances spirituelles obscures et dangereuses. Les parents pourraient au moins centrer leur activité familiale sur des amusements sains. Il pourrait faire une fête, mais refuser que les costumes soient en rapport avec le mal. Par exemple, quelques églises célèbrent la Toussaint en habillant les enfants à la manière des saints de la Bible ou de l'histoire. Mmh. Voilà. Les enfants ne sont jamais trop jeunes pour apprendre qu'un jour ne doit pas être dédié au diable.
Oui.
Ouais. Voilà. Ils sont des petits diables aussi, bah, voilà. Des fois. Alors, hein, base, déjà, voilà. Premièrement, hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, il nous reste encore un petit peu de temps.
Oui.
J'avais des trouvés dans le Nord-Pas-de-Calais, je précise Nord-Pas-de-Calais, des maisons hantées.
Oula.
Bah oui. Normalement, Halloween, des parents veulent que ça amuse les enfants, mais dans la logique, c'est dédié aux sorcières. Faut, pas se... hein, faut quand même avoir peur. On peut pas être alors, sexy à Halloween.
On va dans quelle maison alors?
Alors, on va dans attends, parce que faut que je lise de Dampamont. Dampamont. Non, enfin, vous m'avez compris.
Dampamont.
Ouais, voilà, Dampamont. Elle est sans doute l'une des plus célèbres maisons hantées de France. Et ah, elle est où?
Dans le Nord-Pas-de-Calais.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, construite en 1939 à M.
À M.
Ouais. Ah bah, il y a des trucs célèbres, il y a des trucs célèbres en France, hein, quand même, hein. Surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, dans le Nord, plus précisément, puisque M est dans le Nord. Cette villa aurait été le théâtre de la mort mystérieuse d'un enfant de 5 ans. Les parents auraient quitté la demeure et l'auraient mise en location. On raconte qu'ensuite les locataires ou propriétaires s'y succédèrent anormalement, aucun n'y restant plus d'un mois. Effrayés par les rires et pleurs d'enfants, bruit de pas, les propriétaires successifs auraient quitté les lieux terrorisés. L'un d'entre eux se serait même pendu. On raconte qu'il fut question de la démolir, mais sans jamais y parvenir en raison de la panne successive du matériel.
Ah.
Une église évangélique avait fini par s'installer sur les lieux. Le pasteur avait fait l'objet d'un reportage diffusé sur C8. Enfin, direct 8 maintenant. Donc, voilà.
Oh.
Et apparemment, l'église évangéliste, ils n'ont pas de problème.
Ils y sont tout le temps?
Ils y sont tout le temps.
Okay.
Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai pas vu de truc comme quoi ils étaient partis. Mais bon. Alors, la maison hantée de Bressel. Le récit de ses habitants de la maison située au 13 U du 11 novembre, donc du coup, vous savez que vous ne pouvez pas y aller, a de quoi hérisser le poil. Bruit étrange, coups, verrou qui se réouvre tout seul. Frôlement nocturne, les phénomènes paranormaux auraient commencé en novembre 2011, relate le courrier Picard. La personne qui se serait manifestée serait une petite fille que les propriétaires auraient aperçue à plusieurs reprises. Un groupe de spécialistes de l'association Haute Normandie Paranormale est venu enquêter sur les lieux et a constaté d'étranges phénomènes comme le clignotement des lampes à l'évocation de la personne. Une photo sur laquelle apparaissait une silhouette a été prise à cette occasion. Donc, la maison de Fort Lapin. Marrant comme nom, hein. Fort Lapin, comme le lapin, le petit lapin. Alors, mort inexpliquée d'un enfant, encore, il y a souvent des enfants qui sont morts dans les heures. Atmosphère étrange, ouvrier qui refuse d'y travailler. Il faut le savoir, cette maison près de Bergues, à l'architecture particulière, est entourée de mystères. Les légendes urbaines qui ont circulé sur cette maison en ont fait frissonner plus d'un. Cette maison m'a toujours mis mal à l'aise, surtout avec ce que les gens racontent à son sujet, dit une personne dans la Voix du Nord. Elle a aujourd'hui été rasée pour laisser place à des logements.
Ah bon?
Bah, c'est dommage. Enfin, moi, j'ai vu la photo, elle était jolie. Mais bon. Il faudrait demander au nouveau logement s'ils n'ont pas peur en ce moment.
Peut-être qu'ils ne savent même pas.
Non, ils ne savent pas. Peut-être embêtés toujours par des fantômes. Ils ont des bleus partout, des griffures, ils ne savent pas, mais c'est peut-être le fantôme. Alors, la maison du pendu de Clipton à Dunkerque.
Ouais.
Il n'en reste que quelques murs. La rumeur l'a dit hantée pour des raisons différentes selon les versions. Un enfant y serait mort encore. Ouais, toujours. Les nazis y auraient commis des atrocités. Bon, ça, à la rigueur, on serait pas étonné. À Dunkerque, on raconte aussi que la maison est inachevée parce que son propriétaire avait voulu la bâtir pour sa femme et a découvert qu'elle le trompait. Mort de chagrin, il se serait pendu. Bah, dis donc, la maison, pardon. Alors, rien de concret ni d'avéré cependant. L'emplacement, l'architecture sont très propices à faire de la maison du pendu une source de légende urbaine.
D'accord.
Donc, c'est une maison moitié finie. La maison qui saigne à Saint-Quentin.
J'ai déjà entendu parler.
Une histoire rendue populaire donc par l'ancienne émission de TF1 Mystère. Une famille affirme qu'elle a d'abord été régulièrement dérangée par des bruits de casseroles ou des gémissements avant que les murs ne se mettent à saigner. Du vrai sang sur les murs, affirment les locataires qui décidèrent à l'époque de vendre la maison. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour la revendre, cette dernière fut démolie afin de mettre fin à cet inexplicable cauchemar. Lors de la construction de la nouvelle maison, une chose étonnante se produisit. Une cinquantaine de corps de soldats allemands de la Première Guerre mondiale fut découvert. Il est probable que cela est un rapport, mais restera jamais expliqué. La maison restera inoccupée pendant 4 ans, de 2009 à 2013. Elle trouvera un nouveau acquéreur de la même année et est aujourd'hui habitée sans qu'il y ait de nouveaux phénomènes étranges. Mm-hmm. Donc en fait, elle saignait parce qu'il y avait plein de corps de soldats morts en dessous.
Très joyeux.
Tu vois, c'est fou, hein?
Étrangerie.
C'est dingue. Mm-hmm. Bon, j'avais autre chose à vous dire, des petites blagues, mais je les dirai après.
Oui, d'accord.
Parce que là, ça va être la publicité.
Ah, c'est la pub.
Donc ça va, vous avez pris un peu plus sur être tout ça.
Oui, beaucoup.
Et comme quoi, il y a plein de maisons hantées dans le Nord-Pas-de-Calais.
Bah oui.
On va aller voir, ça peut être marrant. Oui. Enfin, on aura peut-être peur.
Envie.
On reviendra peut-être pas en vie, mais bon, c'est pas grave. Autant essayer. Ou alors, on va faire peur. On fait des bouh. Coco, elle fait bien la sorcière qui rit.
Oui.
Elle adore ça.
Oui, j'adore.
Oh, ouais. Donc, on se retrouve après la page de publicité avec Coco qui va nous parler de...
Des peaux matures.
D'accord.
Des soins pour les peaux matures.
Ouais.
Bah oui.
Bah, ça peut servir, surtout
mais si
en ce moment.
Mais si on a tous 20 ans, hein.
Bah, ça dépend. Angèle, il a que 19 ans, lui, ça va.
Mais moi, je vais pas faire de pas. Soins.
Oui, il veut pas se maquiller non plus.
Il aime bien.
Ah.
Bah, pour Halloween, c'est bien.
D'accord. Ah bah non. Oui, pour Halloween. Oh, bah forcément. Alors.
Et ouais. Après, nous retrouvons Cléophée qui va nous parler justement des tendances make-up automne-hiver et Halloween. Version femme, parce qu'il n'y en a pas que pour les enfants non plus.
Ben non.
On peut s'amuser.
60%,
des 60% des adultes, en fait, se costument pour Halloween.
Nous ne sommes que des grands enfants.
Mais exactement. On doit s'amuser aussi. Hein. On peut avoir des bonbons, nous aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Et faire la fête toute la nuit.
Ça, oui.
Costumé, tout, maquillé, coiffé, costumé. Et on se retrouve tout de suite après la page de publicité.
À tout de suite.